Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Les Jeux Olympiques et la foi avec Arnaud Potéon. Arnaud Potéon, bonjour.
Bonjour, bonjour chers auditeurs de Radio Maria. Je vais vous parler aujourd'hui du corps souffrant du sportif. C'est un peu le mien parce que j'ai couru. Et vous savez que dans le studio parisien de Radio Maria, il y a des escaliers. Donc c'est toujours le premier pas qui est le plus dur. Et il y a pas mal d'escaliers. Donc là, je souffre aussi. Et on va avancer ensemble, toujours au rythme qui est le nôtre, hein, pour creuser dans ce contexte de préparation des Jeux Olympiques, de creuser ce rapport toujours si puissant, si inspirant entre le sport et la foi. Et là, je voudrais un peu parler de la souffrance. Et vous savez qu'on est notre corps, nous sommes notre corps, nous existons au monde par ce corps qui nous est donné, qui nous donne de participer à toutes ces activités sportives qui peuvent nous réjouir le cœur. Le sport va éprouver notre corps, comme il m'éprouve ce matin, comme il éprouve le corps de tous ceux qui tirent dans le cadre d'exercices sportifs, ou bien même parfois on l'évoquera, un peu de tension, de maladie. Et nous savons que ce corps, plus quelque part, plus il est faible, plus il commande, et plus il est fort et plus il obéit. C'était Rousseau qui disait ça dans les Mille. Et lorsqu'on parle de sport, on imagine toujours un corps vigoureux dans la force de l'âge, pour reprendre l'expression de saint Paul, tendu vers l'avant, puissant, musculeux, avec une grande dynamique. Mais alors, lorsque ce corps il est mutilé, il est infirme, il est difforme, il est incomplet, qu'est-ce qu'on peut faire de ce sport dont on célèbre une fois par mois la joie qu'il nous procure sur les antennes de Radio Maria? Et que faire de ce sport alors que notre corps est un peu limité? C'est toute la question. Et aujourd'hui, on voit le sport spectacle, un divertissement un peu sur papier glacé, où on nous montre quasiment que des mannequins bodybuildés, tout beaux, magnifiques. Mais c'est pas le réel, ce n'est pas le réel. Et donc, c'est cette question qui se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce sport lorsque le corps est souffrant? Et je crois que c'est très important de reconnaître que le sport n'est pas que le corps vivant et très bien portant, un corps esthétique et triomphant. Si le sport n'était que puissance corporelle, agilité ou vitesse, ce que disaient des philosophes, on pourrait presque concourir avec des animaux. Souvenons-vous, disait Dubec, qui était un psychologue du sport, disait: souvenons-vous toujours qu'un gorille sera toujours plus fort qu'un champion de boxe. Mais le sport, c'est pas que cette force, voilà, vigoureuse, brutale, que ce corps triomphant. Le sport, c'est bien au-delà. Ça sert à rien d'être le meilleur, il faut être meilleur. Il vient finaliser quelque part des dispositions physiques, mais qui s'appuient sur une force morale. Et à la fin de sa vie, notre cher pape Jean-Paul II, celui que le monde entier acclamait comme l'athlète de Dieu, celui qui avait fait tant de sports, du canoë, du ski, il était même gardien de but. Il n'était pas très bon gardien de but, disait la légende. Eh bien, cet acteur de théâtre charismatique qui a réveillé le monde, qui a fait chuter le communisme, qui avait une présence physique très forte, eh bien, il s'est exposé au monde de façon brutale, rongé par la maladie de Parkinson. Il est resté cohérent avec ce qu'il appelait le magistère des signes, en se montrant dans sa crudité, en exposant son corps souffrant, bavant et agonisant. Et je suis convaincu que le pape Saint Jean-Paul II, il savait la gêne que cette exhibition pouvait provoquer. Je me souviens qu'on se moquait de lui. Et il y avait même sur les plateaux des Guignols de l'Info, de voir comme ça ce physique exposé dérangé. Mais il savait pourquoi. Il nous enseignait encore par son corps. On passait du corps de l'athlète vigoureux. Et je me souviens que j'avais rencontré un des jeunes garçons qui avait accueilli le pape Jean-Paul II au Parc des Princes. Et le pape l'avait pris dans ses bras. Il m'avait dit: j'ai senti la puissance de l'athlète. C'était un corps fort puissant. Eh bien, quand le pape Saint Jean-Paul II, au crépuscule de sa vie, a continué à souhaiter que son corps soit montré, il nous produisait finalement un enseignement gigantesque sur une nouvelle théologie du corps pour les décennies à venir. J'en suis vraiment convaincu. Il nous enseignait que la vulnérabilité est au cœur de notre vie d'athlète, nous qui sommes tous malhabiles et finalement assez fracassés. Que demain, alors que là aujourd'hui, on peut en pleine forme Voilà, courir, montrer qu'on est fort, qu'on peut battre des records. Je pense à nos jeunes qui cherchent tout le temps le dépassement. Eh bien, demain, on sera limité, on sera plus faible. Il faudra consentir à une forme de vulnérabilité. Et même quand on est parent, eh bien, demain, on sera grands-parents et on reprendra la place de nos parents. Voilà. Dans un univers finalement de confort, d'esthétique, comment aujourd'hui beaucoup de personnes n'acceptent pas cette violence de la souffrance, de la limite? On n'accepte pas de voir des traits déformés, cette incapacité aussi à rentrer en communication, même à séduire aussi facilement qu'avant. Et je pense que le sport est un échange, est un lieu d'échange et de lien. C'est un lieu de combat et de débat. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dialogue ensemble. Ayant expérimenté sur son corps l'épuisement, ayant supporté le regard de commisération d'un adversaire à l'issue d'une défaite, ayant abandonné ses espoirs de victoire ou de conquête après un accident, l'authentique sportif, il connaît sa vulnérabilité. Et il sait aussi que sa valeur naît de sa vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'il sait donner du sens à la souffrance. Il se sait estimé comme il s'est vu méprisé. Et quand je disais, je parlais du pas en avant, mais il continue. C'est ses forces de vie qui vont voilà, surpasser un peu ces élans de découragement et donc de mort. Le découragement, c'est la mort. Se confronter finalement au handicap, c'est consentir un double combat contre soi-même et un autre combat avec l'autre. Dans l'adversité, mais comme on l'avait souvent dit dans cette antenne, l'adversité, c'est ce qui me fait grandir. Ne l'oublions jamais. Face à ce que nous percevons comme un peu un scandale du handicap, de la limite, eh bien une forme d'injustice, il arrive bien souvent que nous éprouvions une forme de peur. Nous sommes comme paralysés, souvent perturbés par l'intrusion de l'autre, celui qui est différent, dans notre espace de sécurité, angoissés de ne pas parvenir à nous déverrouiller dans la rencontre physique et même morale avec la personne handicapée. Et j'ai des souvenirs de rencontres alors que j'allais à l'Arche où effectivement mon tempérament, mon caractère pouvait me conduire à rencontrer plein de monde, à ne pas être timide, à parler avec eux. Et face à une personne lourdement handicapée, eh bien j'étais perdu, j'étais totalement perdu. Et cette rencontre avec l'altérité, dans la rencontre sportive, souvenons-nous toujours que l'adversaire n'est jamais un ennemi. Tant nous savons, et je le redis toujours, que l'adversité nous fait grandir, le combat spirituel nous fait grandir, la tentation nous fait grandir, et la tentation nous libère parce que c'est aussi, elle nous sauve, parce que c'est l'occasion de poser un oui, de poser un fiat, de choisir le bien face au mal. Et l'adversaire, c'est celui qui va me révéler, qui va me conduire à hausser mon niveau de jeu, et finalement, il est celui qui me permet aussi de me sauver. Dans l'avènement du sport business, et on est en plein dedans, et plus on arrivera dans la période des Jeux Olympiques, plus on va arriver, on va voir cette puissance des marques, cette puissance de la pub, etc., et sûrement jusqu'à la nausée. Mais il faut comprendre, voilà, que derrière ce sport, derrière ce mirage un peu d'un sport glorieux, avec des corps glorieux, il y a toujours dans l'exercice, dans la pratique sportive, eh bien, il y a des galères. Il y a des galères qui font qu'on avance. Et réfléchissant un peu sur justement l'objet du sport, la finalité du sport, ben les instances internationales du sport ont compris aussi l'importance d'accompagner et de promouvoir des grandes manifestations sportives pour des personnes handicapées. Et c'est toute la finalité des Jeux paralympiques pour les athlètes déficients physiques. Et aux États-Unis, une grande manifestation qui a été développée par la famille, entre autres Kennedy, la famille Shriver, qui s'appelle les Special Olympics, pour des personnes souffrant de troubles mentaux. Et ce sont de magnifiques manifestations populaires qui offrent finalement un triple atout. Un, célébrer des athlètes méritants. Deux, finalement, rejoindre un peu la gêne des bien portants en leur disant, voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas dans des postures triomphantes. Regardez, vous avez des coéquipiers. Qui sont différents, mais qui sont avec vous et qui ont la même vertu sportive que vous. Et puis ensuite, voilà, la troisième vertu, c'est permettre à des milliers de personnes touchées par le handicap, par cette puissance de l'identification, parce que le sport, un peu comme dans la vie, on doit s'identifier à des saints. Le sport, souvent, on va s'identifier à des champions. Et bien, toutes ces personnes handicapées, en plongeant dans le monde du sport, et bien, savent qu'elles peuvent progresser et mériter finalement de vivre et de vivre des émotions puissantes et de les transférer et d'inspirer d'autres personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé récemment parce qu'il sort de prison et c'est vraiment une fable incroyable, cette histoire d'Oscar Pistorius, qui était un champion sud-africain paralympique, multimédaillé dans toutes les catégories paralympiques, 200, 400 mètres. Et Pistorius, il y était né sans péroné. Il a été amputé des deux jambes sous le genou à l'âge de 11 mois. Il a été très vite, il était sud-africain, il était familier des prothèses et il parvint vite à courir, à s'entraîner et à exceller dans de nombreux sports. Il a été un peu la figure emblématique de tous les milieux handisports internationaux. Là, on est dans les années 2000-2010. Il montrait, en plus, il avait une très belle gueule de sud-africain, etc. Il avait vraiment une gueule de mannequin. Et il avait ce corps musculeux très costaud, ce qu'on l'a vu dans des pubs, entre autres, pour Thierry Mugler. Il avait ses prothèses, ce qui faisait qu'avec ses prothèses habillées, c'était un immense champion, mais quasiment un héros de Marvel et de cartoon. Mais quand il enlevait ses prothèses, il faisait 1m40 et c'était une personne diminuée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, il a voulu, donc c'était une grande star, en 2010, il a voulu participer aux Jeux Olympiques avec des athlètes valides. Et là, il y a eu tout un débat technique et politique, finalement, sur la légalité de sa démarche. Et en particulier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du caractère ou pas réparateur ou améliorateur de ses prothèses. Il avait ses prothèses qui pouvaient lui faire courir en dessous des 11 secondes. Et est-ce que la prothèse venait réparer, un peu comme, vous savez, le handicap dans les courses de chevaux? On met des poids pour égaliser les chances des chevaux selon leur performance précédente. Donc on essaye théoriquement d'avoir sur la ligne de départ les mêmes chances de victoire. Et ça permet de bonifier les paris. Donc est-ce qu'on était là pour compenser ou est-ce que cette prothèse, par la qualité technique qui lui permettait un rebond supérieur, était amélioratrice? Et Pistorius, donc, il a été célébré comme une figure exceptionnelle du sport. Il offrait son témoignage sur les plateaux télé, lors des congrès et des événements mondiaux. À la suite de son témoignage, de nombreuses mères de famille dans le monde entier, elles décidèrent de garder leur enfant handicapé. Quand on a fait des amniosynthèses, souvent c'est des enfants qui devaient être malheureusement avorté, et les mères de famille, voyant l'exemple de Pistorius, ont dit mon enfant pourra peut-être être un champion. Cet élan de vie, cette volonté de se donner, de faire rêver les gens, me permettra certainement de permettre à cet enfant de vivre des moments de bonheur. De la même façon, de nombreux vétérans de guerre se sont identifiés à ses performances. Et la chose assez intéressante, c'est Pistorius avait une face sombre. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était un peu une fable. C'est qu'il avait le côté complètement glamour, papier glacé, de personnes qui étaient en même temps handicapées, avec ses failles de personnes handicapées. Et quand il a eu cette espèce de démesure de dire « je vais courir avec les valides », il a explosé. Et il y a eu un fait divers tragique qui fait que dans une nuit d'angoisse, on ne sait pas ce qui s'est passé, en tout cas, il n'était pas sous... il n'avait pas pris de drogue, pensant qu'il y avait une intrusion chez lui. Vous savez, en Afrique du Sud, on est souvent armé. Eh bien, il a tiré et il a tué sa compagne. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Et il est resté 10 ans en prison. Il vient d'être libéré. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pistorius. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pistorius à Barcelone lors d'un congrès sur le sport. Et je lui avais clairement dit, vous savez, Oscar, je pense que... En Europe occidentale, avec les échographies, de nombreux enfants, s'ils n'avaient pas entendu, de nombreuses mères de famille, de nombreux enfants n'ont pas eu la chance de naître parce qu'ils n'avaient pas suffisamment entendu votre témoignage et entendu écouter votre vie de champion malgré ce handicap très très lourd à la naissance. Mais c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur la brèche, on est vraiment dans l'hubris où le pire côtoie le meilleur et il m'arrive très souvent de prier pour Pistorius et puis je me souviens lors de ce rendez-vous, alors qu'il voulait rentrer chez les valides, j'ai vu un homme complètement embarqué dans un système de sport business, de glamour. Il devait donner une conférence, mais on sentait un peu que son handicap était un peu instrumentalisé. J'ai le souvenir d'avoir vu quelqu'un avec le regard un peu vide, un peu perdu, comme embarqué dans une aventure qui n'était pas la sienne. Tout le paradoxe aussi, vous voyez, de cette société gavée de bonnes intentions, c'est que nous sommes dans une société qui élimine massivement et sans bruit les enfants dans le sein de leur mère. Et je le dis alors qu'on est le lendemain de la Marche pour la vie. La Marche pour la vie qui a rassemblé plusieurs milliers, souvent de jeunes, de la jeune génération en France. Ils étaient 500 000 dans les rues de Washington vendredi dernier. Et dès qu'ils sont un peu, entre guillemets, ciblés comme anormaux, déficients, ils sont contraires au canon du monde civilisé, eh bien cette peur de la solidarité, cette peur du risque, conduit tout simplement à les tuer. Alors ce monde, entre guillemets, civilisé, il a besoin de se donner bonne conscience, comme s'il savait que finalement, comme le disait le pape François, cette culture du déchet, eh bien, il a besoin de faire pleurer dans les chaumières. Alors, il organise aussi des Jeux paralympiques. Il fait applaudir des athlètes handicapés. Il va lever des fonds au Téléthon, alors même que demain, les bénéficiaires du Téléthon, certainement, ne seront même plus là parce qu'ils auront été éliminés dès leur naissance. Donc, je ne suis absolument pas dupe aussi d'une forme de un peu de charity business autour du handicap. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le terrain du sport. Savoir que ce corps handicapé, ce corps limité, c'est demain aussi peut-être le nôtre, et que ces corps aussi souffrent souvent d'une relation tronquée par ces regards inquiets, ces regards de pitié et de commisération. Ces corps faibles, qui aux yeux du monde performant, peuvent finalement comme embarquer toute la personne qui a ce corps dans une zone un peu de droit diminué, eh bien ces corps faibles accueillent souvent des personnalités exceptionnelles qui auront compris que la bonne sensation corporelle, la puissance physique, la belle santé du corps ne sont finalement que des variables externes qui n'affectent en rien l'immense dignité de la personne et surtout la grande potentialité de leurs actions. Souvent, ces personnes arrivent à dépasser le paraître, elles accèdent à une dimension nouvelle, une sous-couche de leur personnalité souvent inexplorée, celle de l'esprit et de l'âme. Et c'est là qu'on voit un peu la limite de l'enveloppe corporelle, qui est celle qui nous permet de rentrer en relation à l'autre, mais derrière, quand le corps est souffrant, quand le corps est limité, il est vulnérable. Eh bien, on rentre dans un cœur à cœur et on rentre, on a accès à l'âme de la personne et finalement aussi à un élément de sa dignité qui englobe tout, toute sa personne, corps, âme, esprit. Et j'avais été très marqué par le témoignage d'un jeune rugbyman qui s'appelait Kassem. Il était joueur de première ligne, paralysé après une rupture de la moelle épinière suite à l'effondrement d'une mêlée. Et il disait la chose suivante, il disait dans une conférence évoquée dans un livre « Dieu aime-t-il le rugby ?» de Jean-Claude Lombard, un livre paru en 2003, il disait « Pour moi, vivre, c'était les sensations, les éprouver dans mon corps. Maintenant, je n'ai plus cela, c'est quelque chose de nouveau. » Alors, ce jeune Kassem, il a découvert la vie spirituelle. Il a refusé l'abrutissement des divertissements et de la télé. Il a combattu de front, puis il a consenti pour rebondir. Il a accepté sa souffrance. Il a compris qu'il ne pouvait plus compter sur ses propres forces, alors qu'il était, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, dans une forme de toute-puissance, dans une forme de maîtrise de tous les éléments autour de lui. Vous savez, on dit souvent que les champions de haut niveau ont trois, entre guillemets, caractéristiques. C'est terrible, hein. Ils sont paranoïaques, ils sont obsessionnels et ils sont compulsifs. Et il y a une forme de côté complètement obsessionnel. Et lui, il a lâché prise et il a compris que le niveau de la relation devait être beaucoup plus d'ordre spirituel. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, nous dit toujours l'Évangile. Nietzsche disait que la plus grande douleur est le dernier libérateur de l'esprit. Elle seule nous contraint à descendre dans nos dernières profondeurs. Il y a des choses comme ça, parfois, tu as des fulgurances de Nietzsche. La plus grande douleur est le libérateur de l'esprit. C'est-à-dire quand on a cette douleur aussi corporelle, eh bien, à un moment, on touche finalement à une nouvelle réalité qui est la réalité spirituelle qu'on va puiser dans nos profondeurs. La douleur et la souffrance, finalement, elles autorisent ce second souffle qui va naître du tréfonds de l'âme lorsqu'on est, comme disent les sportifs, totalement carbonisé. Pour les chrétiens, la souffrance subie nous associe à la souffrance volontaire du Christ innocent qui nous rejoint dans nos douleurs physiques et dans toutes nos errances morales afin de nous ouvrir un chemin de rédemption. un préfet de la République française, Jean-Christophe Parizeau, qui avait écrit un livre en 2011 qui s'appelait Préfet des autres. Et Jean-Christophe Parizeau, depuis, est décédé. Il était diacre et il a rejoint un peu ses témoins d'une vitalité exceptionnelle. Il était myopathe et donc il était sur son fauteuil roulant. Et il avait un caractère très fort, et avec un style direct, il débordait d'une vitalité absolument stupéfiante. Je vais citer Jean-Claude Parizeau, feu Jean-Claude Parizeau, prions pour lui. Il disait la chose suivante: être emmuré, se battre jour et nuit, cela donne un certain savoir-faire et quelques compétences dans le contournement d'obstacles. Ma vie, c'est défoncer les portes. Être dépendant des autres n'est pas une tare, c'est même une dimension essentielle de la vie. Le bonheur, c'est vivre avec et pour les autres. Le pire du handicap, c'est de croire qu'on n'a aucune valeur. Je veux dire que l'on peut avancer tout en étant immobile. Et donc, on sent que ce Jean-Claude Parizeau, il a témoigné, hein, de sa foi chrétienne dans d'autres ouvrages, mais il y avait cette force de la volonté, cette expression: ma vie, c'est défoncer les portes. Ma vie, c'est défoncer les portes pour faire le bien, pour créer de la vie. Alexandre Jolien, que vous connaissez sûrement, il parlait de son handicap comme d'une force qui nécessite un combat quotidien. Elle doit être entretenue comme une flamme qui est à la merci du moindre souffle. Il a donné un sens à sa souffrance et à la dépendance en privilégiant finalement un bien-être bienveillant dont il témoigne dans ses conférences. Dans l'histoire du sport, il y a eu des rencontres comme ça. Et il y a une rencontre assez marquante, moi, qui m'avait inspiré. C'était un récit dans un livre des années 50. Des jeunes d'un club de basket étaient invités à affronter un adversaire singulier, une équipe formée de leurs contemporains handicapés en fauteuil roulant. Et tous les jeunes handicapés, c'est le cas par exemple vous savez, il y a un rugby aussi en jeu paralympique, du rugby en fauteuil roulant, et c'est extrêmement tonique, c'est extrêmement violent, extrêmement engagé. Et lors de ce match, les jeunes en fauteuil roulant étaient extrêmement excités à l'idée d'affronter les valides. Or, ce match fut un fiasco, en raison de la gêne des bien portants qui refusèrent le combat. Ils étaient comme empruntés, paralysés, prétextant la peur de faire mal. Or, les jeunes en fauteuil roulant, ils étaient fougueux. Ils voulaient vraiment, ils voulaient du combat, ils voulaient de la chute, ils voulaient du souffle. Et ils voulaient combattre, ils voulaient chuter, ils voulaient se relever. Ils désiraient finalement ardemment l'aspérité d'une rencontre tonique et complètement décalée et exotique. Ils rêvaient d'un match viril. Et finalement, ils se sont heurtés à une gentille commisération. Les personnes valides les ont relégués finalement dans une division inférieure, incapable d'accepter cette différence. Et cet épisode un peu nous enseigne dans les personnes. Je crois qu'il est très important, quand on rencontre des personnes en souffrance, avec un handicap physique ou visible ou non visible, de repenser à ce match de basket entre les valides et les non valides. Et est-ce que je me mets réellement à la place de la personne que je rejoins? Et finalement, qui est cette personne vulnérable? Et j'avais eu l'occasion de faire des maraudes, et je me souviens, on nous disait vraiment dans les maraudes: quand tu discutes avec la personne de la rue, assieds-toi. Assieds-toi et mets ton regard à la hauteur de son regard. Et très souvent, la peur, elle est dans notre camp, évidemment. La peur, elle est dans notre camp. Or, le combat du sportif, c'est finalement de dépasser sa peur. La vraie puissance, c'est le téméraire, il n'a pas de mérite parce que finalement, il n'a pas peur. Mais le vrai courage, c'est d'identifier sa peur et de dépasser sa peur. L'histoire du sport nous enseigne énormément de choses, donc j'espère que mes amis de Radio Maria vous souviendrez de ce match de basket entre des jeunes valides et invalides. Mais il y a d'autres exploits sportifs et en particulier d'athlètes qui ont été dotés de difformités physiques, qui étaient des objets de moquerie dans la vie civile, mais qui pouvaient offrir un avantage décisif dans le sport. Et ça, c'est un peu une forme de revanche, un peu du handicap. Nous pouvons évoquer un nageur qui disposait d'un buste exceptionnellement long, ou bien d'un footballeur épique, tireur de coups francs, Juninho, qui jouissait d'une flexion complètement atypique de sa cheville. Mais c'était quelque part une forme de handicap, mais ça lui offrait la possibilité de donner un effet à la balle incroyable. Mais l'exemple le plus emblématique reste celui du célèbre ailier droit brésilien Garrincha, dont la jambe droite, elle était plus longue de 6 cm de la gauche. ce qui lui permettait de réaliser des dribbles absolument redoutables qui déstabilisaient l'adversaire. Donc il ondulait comme ça, il jouait en déstabilisant, et c'est absolument incroyable. Et donc l'esprit sportif, par les vertus qu'il convoque, il peut être vraiment finalement un antidote à l'enfouissement de la vulnérabilité, qui résonne comme un refus de la mort. Moi, ce que j'observe un peu, vous savez, de cette société, j'en ai déjà parlé, on a déjà parlé ensemble, il y a comme une opposition entre le risque et le care. Alors, le care, si c'est vraiment la charité, c'est formidable. Et moi, je vois aujourd'hui une vision un peu falsifiée du care. C'est qu'on veut prendre soin, mais finalement, en prenant soin, on met un beau coussin, on met un environnement très ouaté, mais finalement, on préfère étouffer. On préfère externaliser. Donc les personnes, j'en discutais avec des amis musulmans, les maisons de retraite ou l'avortement, mais c'est quelque chose qui dans leur culture est totalement, absolument scandaleux. Et pour eux, l'Occident est complètement décadent, précisément en externalisant, en éliminant, en tuant ce qui est souffrant. Ce qui est défaillant, alors que leur société repose sur une solidarité humaine. Et aujourd'hui, je pense que j'oppose souvent le care au risque, et ça, c'est parce que on est animé d'un esprit sportif, c'est-à-dire que quand on dit il y a du sport, ça veut dire qu'il y a du combat. Et la solidarité, la charité, ça passe par une adversité. Une adversité qui nous permet d'être un peu dérangé dans notre petit confort, qui va permettre de nous vider de quelques suffisances, de quelques orgueils, de quelques conforts, pour nous remplir de la présence de l'autre. Et je crois que c'est ça le risque. La prise de risque, c'est l'acceptation réellement de l'inconfort de notre vie pour qu'il y ait surgissement de la charité. Le Christ, il nous a rejoints dans nos plaies. Quand la peau était belle, quand l'enveloppe était lisse et bronzée, finalement, quand tout va bien, la grâce glisse. La grâce, elle pénètre nos cœurs dans nos vulnérabilités physiques et morales. Et d'où l'importance aussi, et c'est la puissance vraiment du christianisme, de la miséricorde et du pardon. C'est qu'alors que le chrétien chemine comme ça vers la sainteté avec une vie de vertu, de bonnes actions, etc. Quand il tombe, finalement, il fera appel au Seigneur. Il sait qu'il ne peut jamais s'identifier à son péché. Et jamais. Il sait qu'il y aura toujours cet espace de rebond, cet espace de rédemption. Il va mendier la grâce du Seigneur et il repartira d'abord plus humble et aussi plus fort, parce qu'il se connaît lui-même et il sait que sans l'aide du Seigneur, il n'avance pas loin. Il n'avance pas loin. Et c'est merveilleux. Et le retournement du christianisme, et je relisais hier un texte de Napoléon qui voulait contrôler le monde, qui était fasciné par le contrôle temporel, spirituel de tout, des grandes figures comme César, Alexandre le Grand, et à la fin de sa vie à Sainte-Hélène, en exil, il a dû avouer vraiment le triomphe du Christ. Et le triomphe du Christ, il l'écrivait, c'est par la charité. C'est par la charité, c'est par le décentrement de soi et par cette miséricorde qui fait que le bon larron, alors que le bon larron va devenir le plus grand saint, parce qu'il a cet espace de liberté pour dire au Seigneur, tu es mon sauveur. Et Jésus lui dit, tu es avec moi au paradis. Et ça, c'est incroyable. C'est une puissance temporelle qui va vouloir tuer un chrétien, et qui fait de ce martyr, qui va disparaître physiquement sur terre, finalement une semence d'autres chrétiens. Et peut-être avez-vous été aussi, comme moi, bouleversé d'écouter le témoignage de cette femme qui a été sauvée par Beltrame, et qui aujourd'hui a voulu comprendre un peu le ressort de l'action du colonel Beltrame, et qui aujourd'hui découvre la foi, découvre le Christ. Et on est vraiment dans cette phrase de Tertullien, le martyr est semence de chrétiens, et c'est mystérieux, et c'est quelque part extrêmement subversif, et c'est absolument incontrôlable. Mais je reviens à la souffrance. La souffrance, c'est vraiment la compagne du sportif. C'est un appel charnel à dépasser des théâtres d'ombre, à aller au-delà des seules sensations. Dans l'intimité du vestiaire, au crépuscule d'une carrière, tous ceux qui ont fait du sport voient que les corps et donc parfois un peu les âmes souffrent. On sent qu'on ne peut pas revivre les mêmes sensations. On connaît aussi la blessure de l'échec quand les chronos que vous pouvez faire deviennent de plus en plus mauvais, alors que vous avez l'habitude de marcher, de courir avec votre fils ou votre neveu et que vos petits-enfants, et puis que vous devez renoncer. Mais il faut consentir à redevenir quelque part un enfant. C'est amusant parce que quand on est enfant aussi, on a un corps limité. Et quand Bernanos parle de cette grâce de revenir vers l'enfance, c'est aussi vers cette candeur spirituelle qui est de se donner aux autres. L'enfant, c'est celui qui ne calcule pas. Il y a une forme de chasteté, de pensée chez l'enfant. Il se donne, il s'expose et il reçoit. C'est pour ça que les abus auprès des enfants sont si terrifiants et si diaboliques. Je reviens au sport. Mais le sport, il vient malaxer les corps et il vient toujours, à un moment donné, rencontrer des corps souffrants. Il permet de mesurer et d'affronter finalement notre incomplétude, nos limites, et il permet d'entrer enfin dans une vraie relation avec l'autre. Et il permet d'ouvrir la porte à Dieu, et je crois que essouffler, le sport finalement appelle la grâce. C'est ce que je voulais partager avec vous. On a peut-être la possibilité, je fais une pause après cette envolée sur la souffrance dans le corps, sur la souffrance dans le sport. Peut-être y a-t-il des auditeurs qui veulent réagir sur tous ces propos autour de la vulnérabilité, autour de nos limites dans le sport.
Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Les Jeux Olympiques et la foi avec Arnaud Boutéon. Notre thème d'aujourd'hui, le corps souffrant du sportif. Arnaud Boutéon, alors, si vous me permettez, il y a deux sportifs qui m'ont marqué lors des derniers Jeux Olympiques. Donc, il y a un côté Jeux Olympiques d'été et l'autre côté Jeux Olympiques d'hiver. Alors, je ne sais pas si sa défaite était due à un problème physique. Il y a Teddy Riner, qu'on attendait comme champion olympique pour, je ne sais plus pour combien de fois il a été judo, champion du monde, champion du monde et champion olympique. Et là, il perd dans les premiers tours. Et il y a un système en judo qui fait que, en fonction de... En fait, il faut souhaiter que son adversaire aille plus loin possible pour pouvoir être repêché. Et c'est ce qui a été le cas de Teddy Riner qui a pu poursuivre ensuite la compétition en vue d'une médaille de bronze. Et voilà, je trouve que c'est peut-être sa plus belle médaille parce que le jour même, en fait, il doit accepter la défaite et se remotiver pour aller chercher cette médaille de bronze. Ça, c'est le premier sportif qui m'a marqué au cours des derniers Jeux Olympiques. Et il y a également, donc côté hiver cette fois, Kevin Roland, qui fait du halfpipe, c'est du ski acrobatique, qui a eu un terrible accident. Il a frôlé la mort, il était dans le coma. Les médecins disaient qu'il ne se réveillera pas. Finalement, il s'est réveillé. Les médecins ont dit qu'il sera handicapé. Il ne pourra plus jamais remarcher. Finalement, il a remarché. On lui a dit, mais tu ne pourras plus jamais refaire du sport de haut niveau. Et finalement, il s'était qualifié pour la finale des Jeux Olympiques, des derniers Jeux Olympiques. Il avait fini sixième. Et magnifique. Il y a une chose qui m'avait frappée, c'est qu'il s'était posé la question d'aller chercher le podium ou pas. Ce qui voulait dire prendre des risques. Et là, il s'est dit, ma famille a suffisamment souffert, je fais la finale, je ne vais pas chercher le podium.
Il y a un consentement, il y a une forme de consentement en disant, c'est très intéressant, c'est que par rapport à l'ego, à la recherche de l'ego, il s'est dit, maintenant, finalement, j'avais ce défi, ce combat contre moi-même, de revenir. Et alors que je dis ma future couronne, ça sera pas la couronne sportive, mais ça sera la communion avec les gens qui me sont chers. Et peut-être l'a-t-il fait pour les autres. Non, c'est de très belles histoires, c'est de très très belles histoires. Mais moi j'ai une pensée aussi parce que on est en train de réfléchir et d'échanger dans cette perspective des Jeux Olympiques. Et je rencontrais récemment un universitaire et qui travaille beaucoup, beaucoup sur un peu les à-côtés du sport et qui me disait, N'oublions jamais que cette période préparatoire aux Jeux Olympiques, et donc vous savez, pour participer aux Jeux Olympiques selon les pays, eh ben, il y a des temps de qualification ou des performances à accomplir et à justifier. Eh ben, c'est un temps évidemment de jubilation, en particulier pour les jeunes Français qui pourront participer 100 ans après les derniers JO d'été à Paris. Mais c'est aussi un temps de grande, grande, grande souffrance pour tous ceux qui ne seront pas dans les minima et pour tous ceux qui, depuis 4, 5 ans, parfois même 10 ans, travaillent pour se qualifier, pour participer aux Jeux Olympiques, mais qui seront dépassés par d'autres champions. Donc c'est aussi une période de grande souffrance. La semaine dernière, j'ai eu la grande chance de rencontrer Nelson Montfort. Vous savez, Nelson Montfort, c'est ce journaliste de France Télévisions emblématique. Nelson, qui est un ami, je peux le dire, va participer à ses 16e Jeux Olympiques. Tous les 2 ans, mais c'est ses 16e Jeux Olympiques, et donc il est aussi la voix emblématique du patinage artistique, de Roland Garros, enfin voilà. Et il a été acclamé par les jeunes d'une école catholique, et il évoquait cette souffrance dans le sport, Nelson, en évoquant un grand champion qui était resté, je crois, qui avait eu la médaille d'argent, et qui lui avait dit, Nelson s'était posé la question, lui avait posé la question en lui disant, est-ce que tu penses souvent à ta défaite? Parce qu'on ne retient que les champions olympiques, on retient pas, l'histoire ne retient pas les médailles d'argent, très peu. Et il lui a dit, je pense à ma défaite 4 fois par heure. Donc il y a aussi autour de ces grands champions des personnes qui sont profondément, bah, qui restent blessées et qui pensent aussi, et c'est là qui pensent qu'elles vont s'identifier à leur échec. Et c'est là que l'environnement, la famille, doit montrer que derrière cette espèce de dictature de la performance, cette espèce d'obligation de la médaille, il y a une personne qui ne doit ni s'identifier à sa médaille, à son trophée, à son palmarès, ni s'identifier à ses échecs. Et c'est une personne dont le corps est le temple de l'esprit et qui est une personne avec une immense dignité, mais au-delà du sport, vraiment au-delà du sport. Et je voudrais terminer cette chronique par une très belle prière de Saint Thomas More, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Donne-moi ta grâce ». Et c'est une prière que je lis de temps en temps. J'aime beaucoup Thomas More, d'abord parce que c'est un laïc, et c'est une figure voilà, politique très importante. Il était ami avec le roi d'Angleterre, et il n'a pas voulu trahir sa conscience de catholique, alors que le roi finalement a voulu jouer avec des accommodements raisonnables pour avoir son approbation et rompre son mariage, cette alliance devant Dieu. Thomas More, c'est aussi l'apôtre du mariage. On le présente comme le saint patron des politiques, mais derrière, c'est vraiment l'apôtre du mariage et du consentement entre un homme et une femme devant Dieu, et que rien, qu'aucune finalement compromission politique, qu'aucun arrangement ne doit ébranler. Et Saint Thomas More, qui était connu aussi pour son humour, sa légèreté, sa gourmandise, donc c'était quelqu'un de très incarné. Je l'imaginais pas quand même sur une piste d'athlétisme. Je pense qu'il était assez ventripotent, un peu comme Churchill, Chesterton, enfin tous ces Anglais bons vivants, mais avec un esprit très très agile. Voilà, je vais vous réciter cette belle prière. Donne-moi ta grâce, Seigneur bon, de tenir pour rien le monde, de tenir mon esprit fixé en toi et de ne pas flotter au souffle des bouches humaines, de m'accommoder à la solitude, de n'être pas avide de compagnie mondaine, peu à peu de rejeter le monde et de libérer mon esprit de son tourbillon, de ne pas être avide de ses nouvelles, mais dégoûté de ses vanités, joyeusement de penser à Dieu, d'implorer son secours et de prendre appui en son réconfort, de me mettre activement à l'aimer, de découvrir ma vilenie et ma misère pour me faire tout petit sous sa main puissante, de pleurer mes péchés passés et pour m'en purifier, de supporter patiemment l'adversité, de souffrir volontiers mon purgatoire ici-bas, d'accueillir avec joie les tribulations, de suivre l'étroit chemin qui conduit à la vie, de porter la croix avec le Christ, d'avoir en mémoire les fins dernières, d'avoir toujours ma mort devant les yeux, une mort toujours présente, pour qu'elle ne me soit pas étrangère. D'envisager et considérer le feu éternel de l'enfer, d'implorer mon pardon afin que vienne le juge, d'avoir sans cesse à l'esprit la passion que le Christ souffrit pour moi, de le remercier continuellement de ses bienfaits, de racheter le temps que j'ai perdu, de m'abstenir de vaines parlottes et de sottes gaietés, de couper court aux récréations superflues, de tenir pour rien la perte des biens de ce monde, des amis, de la liberté et du reste pour gagner le Christ, de voir en mes plus grands ennemis mes plus grands amis, car les frères de Joseph n'auraient jamais pu lui faire autant de bien par amour et affection qu'ils lui en firent par leur malice et leur haine. Ces dispositions sont plus désirables pour tout homme que tout le trésor des princes et rois, chrétiens et païens, fût-il réuni et rassemblé en un seul tas. Amen. Voilà, donne-moi ta grâce, Seigneur bon, de ne tenir pour rien le monde, de tenir mon esprit fixé en toi. Voilà, chers amis de Radio Maria, j'étais vraiment heureux de passer avec ce moment avec vous, de méditer avec vous sur nos corps souffrants et sportifs. Mais je dis vraiment souvent que l'esprit sportif et le sport, c'est avant tout cette force morale qui va nous mouvoir, mouvoir notre corps, que ce corps soit fixe, immobile, et on repense à cette expression de Jean-Christophe Parizeau, ce préfet qui était myopathe, qui dit « je défonce les portes ». Eh bien, défonçons finalement les portes de notre cœur pour nous ouvrir vers les autres. Défaussons les portes de notre timidité pour annoncer le Christ, toujours dans la joie, parce que l'évangélisation se fait par la bonté, la gaieté, disait Mère Teresa, et par attraction. Belle semaine à tous, et puis rendez-vous pour une nouvelle session autour des Jeux Olympiques et de la foi le mois prochain. À bientôt.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Les Jeux Olympiques et la foi avec Arnaud Boutéon. Notre thème d'aujourd'hui, le corps souffrant du sportif, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.